Nous n'avons rien.
Sinon les mots à trouver.
Des phrases à tenter.
Qui ne glissent déjà.
Retenir les images.
Malgré nos semblants, se battre et traduire.
Devenir commun.
Faire fou.
Hors des colonnes où l'on marche.
Le faire seul.
La vie est trop grande et la solitude, un empire bien prospère.
Demeure un bloc.
Nous allons ailleurs.
Alors, faire ensemble.
Notre nom.
Notre nom.
Notre nom.
Notre nom.
Jeff Clack.
Le ton est donné dès ses premières lignes introductives. Jeff Clack, c'est une revue de critique sociale et d'expérience littéraire, à mi-chemin entre le journalisme, la littérature, la BD, le graphisme, un peu tout ça en même temps. 300 pages pour une publication biannuelle, un deuxième numéro sorti au printemps. Jeff Clack, c'est un support démultiplié, un site internet pour des contenus complémentaires, des journaux affichés sur les murs et puis un CD de création sonore, inventif, varié, associé à chaque nouvelle parution. Jeff Clack, c'est aussi le nom du collectif, foisonnant, une trentaine de membres impliqués dans la production. Face à moi, deux d'entre eux, Ferdinand et Michael. Bonjour.
Salut.
Nous sommes à l'espace Manifestaine à Marseille et ce n'est pas un hasard puisque Manifestaine est un lieu d'échange, de réflexion politique et littéraire. Jeff Clack, c'est aussi un prénom et un nom, l'invention d'un personnage, première étape dans l'entrée dans la fiction. Est-ce que c'était là en fait une façon pour vous de s'ancrer dès le départ dans une démarche littéraire et créative, Ferdinand?
En fait, Jeff Clack, ça veut dire l'homme de la rue en flamme, enfin le monsieur Dupont, madame Michu, etc. quoi. Et un des principes de base de la revue, donc comme tu disais, c'est d'hybrider ce qu'on appelle la critique sociale, donc du journalisme, on va dire, qui s'attache à déconstruire certains rapports de domination, enfin faire vraiment du reportage de terrain, et d'hybrider à côté de ça de la littérature, de la poésie, laisser une grande place à la traduction aussi de différentes revues étrangères plus ou moins militantes.
Donc du politique et du littéraire. Vous avez choisi une comptine pour point de départ, trois petits chats, chapeau de paille, paillasson. Le premier numéro s'appelait Marabout. Il s'articulait autour des croyances populaires dans nos sociétés. Et celui-ci s'appelle Bout de ficelle. Il s'attache au tissu, textile évidemment, mais aussi urbain, musicaux. Pourquoi le choix de la comptine?
L'idée, c'était de nous mettre une contrainte. En fait, on a mis un an et demi à se réunir, donc à 30-40, sur l'objet qu'on voulait faire au final pour cette revue. Et on avait envie de sortir un peu des sentiers battus et de nous mettre cette contrainte, de suivre cette comptine qui rejoint un petit peu le nom de Jeff Clack, c'est-à-dire une comptine qu'un peu tout le monde connaît tout en l'ayant oubliée, mais qui nous faisait sortir de ce qu'étaient les revues habituelles, notamment d'où on venait, c'est-à-dire politique, c'est-à-dire de sortir d'un enchaînement de thèmes, par exemple le nucléaire, les violences policières, l'écologie, le féminisme.
Oui, donc en fait une façon de se contraindre à des zones un peu plus grises, aller sur des sujets un peu plus à la marge.
Voilà, mais tout en parlant de féminisme, d'écologie, de nucléaire, de répression, et voilà, mais en explorant d'autres domaines. Et aussi, ça permet d'ouvrir la voie justement à cette deuxième partie expérience littéraire, on pourrait dire presque expérience création, en tout cas création, qu'elle soit visuelle, littéraire, poétique, pourquoi pas théâtrale, etc. Avec Marabout, par exemple, on a beaucoup plus d'imagination quand on fait de la littérature, quand on fait des images, que si on dit domination ou si on dit nucléaire. Tout de suite, Marabout, ça permet d'explorer d'autres champs. Et c'est à nous ensuite, dans le collectif, de voir ce qui répond à nos questions, ce qui nous permet en fait de nous décaler. Je pense que c'est vraiment ça l'idée de la revue, c'est de permettre au collectif de se décaler. Et c'est pour ça qu'on prend plaisir à le faire, parce qu'on ne gagne pas une thune là-dessus, personne n'est payé. Mais de permettre aux lecteurs ou aux auditeurs pour le disque de création sonore de penser un petit peu les choses autrement et d'enrichir les luttes, enrichir les questions sociales de choses qui peuvent être oubliées parce qu'elles ne sont pas objectivement ou directement politiques.
J'ai eu l'impression de toucher à une grande, grande culture.
De nos âmes arrimées.
Quelque chose de très puissant.
Extrait de Marabout.
Que ce soit artistique, dans l'esthétisme que ça produit, que ce soit dans le domaine ce qu'on appellerait médical, que ce soit pour le corps ou que ce soit pour ce qui se passe dans ma tête avec mes pensées, la façon dont mes souvenirs se sédimentent, se superposent, la façon dont je me construis en tant que personne. Dans l'initiation, enfin dans les rites aliboga de la culture bouti, y a deux grands rites. J'ai fait mon initiation là où je devais la faire et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ça n'a pas été le contexte le plus sain et le plus serein pour moi. Le deuxième ou le troisième jour, j'ai eu besoin d'appeler à l'aide et j'ai utilisé les tikas pour appeler.
Sur la couverture du deuxième numéro, on voit un homme noir, masqué, transgenre, aux allures de super-héros. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, cette image ? Pourquoi ce choix ?
Alors, c'est justement, c'est pas un homme.
C'est une femme ?
C'est pas une femme.
Ah oui, c'est transgenre.
Et de l'autre côté, il y a aussi un personnage qui n'est ni un homme ni une femme, qui est un personnage en devenir, qui mélange plusieurs, un peu comme les jeux là où il y a des bandes sur un visage avec plusieurs visages mélangés. On a fait deux personnages comme ça et c'était une vraie manière de créer une couverture collective. C'est-à-dire que je crois que pendant un mois et demi, on a discuté de qu'est-ce qu'on voulait mettre chacun sur cette image. Alors, elle a beaucoup évolué. À un moment donné, là par exemple, dans la version finale, il y a un des bras qui est un bras un petit peu obèse et tatoué parce que quelqu'un avait envie de mettre ça. Il y a un personnage de super-héros parce que dans l'intérieur de Jeff Clack, de ce numéro-là, sur le bout de ficelle, il y a pas mal de choses sur les super-héros et les représentations populaires de minorités, qu'elles soient noires, qu'elles soient... etc. Et voilà, l'idée, c'était que ce premier numéro, on avait fait un cadavre exquis à 30. Et là, on a fait une couverture et une quatrième de couverture à 30. C'est-à-dire qu'on a discuté de ce qu'on voulait mettre en scène comme représentation à la fois du collectif, mais aussi de l'intérieur du numéro. C'est-à-dire que l'image de couverture et de quatrième de couverture est représentative du sommaire, presque.
À l'intérieur de la revue, on a l'extravaganza des travestis mexicains, Frida Kahlo et l'importance qu'elle accordait à ses choix vestimentaires au cœur de son art, le voile islamique, un bout de tissu devenu image de l'islam. En fait, oui, au cœur de ce numéro, le tissu, le vêtement, est analysé comme une affirmation de l'identité sociale ou politique.
Ouais, moi, je dirais qu'il y a deux gros axes qui structurent un peu ce numéro-là. Il y a l'industrie textile en tant que telle, comment elle a évolué notamment en Europe, où ça a été historiquement, dès le 19e siècle, ça a été un élément structurant du capitalisme. Après, le deuxième volet, c'est vraiment sur, pour résumer simplement, vraiment les usages politiques et sociaux du vêtement, via un peu deux gros axes, on va dire, pour résumer. Le fait de le vêtement comme outil de revendication vraiment sociale et politique, et au contraire, le vêtement comme outil pour se soustraire à certains rapports de domination ou rapports de pouvoir. Voilà quoi.
Est-ce qu'en fait, ça serait une façon de dire que la lutte pour être excitante, c'est aussi que ceux qui la portent doivent être excitants, une sorte de replacer la lutte du côté du désir, de la séduction de...
Je crois pas qu'on a un peu raté le côté séduction.
C'est ce qu'on peut voir un peu dans cette couverture, dans ce personnage.
Ouais, c'est vrai que la couverture, c'est un pastiche, je pense, de magazine de mode. Mais je pense que c'est pas tellement une question de séduction ni de glamour spécifique qui devrait être inhérente à la lutte. C'est plus une question de forme de langage, en fait. Et la séduction peut en faire partie. La séduction qui passe pas par le verbe, la séduction qui passe pas par l'argumentation, par le discours, tout ce qui est imperceptible dans des milieux politiques traditionnels C'est-à-dire, on met souvent en avant le discours argumenté, discursif, avec, voilà, il faut pouvoir poser une thèse, il faut pouvoir revendiquer, il faut pouvoir affirmer des choses. Et en fait, le vêtement, mais je pense comme beaucoup d'autres choses, le vêtement, la tenue vestimentaire affirme et dit des choses qui sont souvent beaucoup plus appropriables qu'un discours universitaire ou militant dans les classes politiques. En fait, le vêtement, c'est ce qu'on voit dans les communautés gays, c'est ce qu'on voit dans les communautés lesbiennes, c'est ce qu'on voit dans les communautés squats, c'est ce qu'on voit dans les communautés afro-américaines. En fait, simplement par le vêtement, par une affirmation d'une culture, en fait, d'une culture commune, il peut y avoir des choses extrêmement fortes qui sont posées dans l'espace public, qui se voient d'un simple regard et qui sont du coup partagées et qui sont ensuite des forces, des vraies forces de reconnaissance, reconnaissance entre soi et reconnaissance vers les autres, et qui permettent en fait de donner de la force, de donner de la puissance à certaines identités qui peuvent être par ailleurs minorisées, opprimées, voilà.
Frottement. Extrait de Bout de ficelle. Aussi donc des créations sonores, par exemple Ferdinand, sur l'article Autoportrait en cagoule que vous avez coécrit, il est associé à un titre sur le CD, Le carnaval est terminé. C'est un article sur le papier qui parle de Georges Courtois, un personnage assez étonnant qui avait pris en otage la cour d'assises de Nantes en 85. Qu'est-ce que l'objet sonore apporte à l'objet papier?
Rien. L'objet sonore, il apporte rien à l'objet papier. C'est un peu comme les images en fait dans la revue, c'est-à-dire que on a pensé les images et le son au même titre que le texte. Donc il y a absolument pas, c'est pas du tout une décoration, une illustration des propos écrits, recueillis dans la revue papier. C'est vraiment trois formes: l'image, le son, le texte. Et presque une quatrième forme qui serait le site internet, qui disent et qui vont dans le même sens en fait.
Parce que tu sais que l'histoire des palais de justice, par exemple, tous les palais de justice dans le temps avaient des marches.
Le carnaval est terminé.
Des marches assez longues.
Extrait de Bout de ficelle.
C'était assez long à monter. Et ça, c'est parce que tu dois t'élever vers la justice. On arrive à la cour d'assises, le président il commence sans cinéma, mais moi je ne les laisse jamais commencer. Je ne les ai jamais laissés commencer, toi. J'ai toujours protesté avant de commencer. Il vient voir. Bon, il me dit, écoutez, monsieur Courtois, il me dit, il ne faut pas venir à la cour d'assises pour insulter les gens. Hein. Il me dit, ah, j'espère que vous n'allez pas venir à la cour d'assises pour insulter les gens. Hein. Je lui dis, non, mais attendez, j'ai dit, vous me prenez pour qui, moi? Non, mais il me dit, parce que bon, vous avez quand même plusieurs condamnations pour outrage à magistrat, tout ça. Et alors, ils m'ont outragé, je les outrage, c'est normal, c'est des un échange de bons procédés. Toi. C'est quand même du folklore, un falbala, c'est invraisemblable. Hein. Tu vois, quand tu les vois, c'est vrai qu'ils sont déguisés, il faut dire ce qu'il y a, ils sont déguisés, ça s'appelle un déguisement, hein. Ça s'appelle pas une tenue de
travail.
de travail, c'est une tenue de gala, quoi. C'est, quand Karim leur a dit le carnaval est terminé, on enlève des habits clowns, tu vois la vitesse à laquelle ils ont enlevé la robe rouge, mais c'est même pas la peine, tu peux pas croire. Tu crois que c'est l'autre, là, l'italien, qui se change à toute vitesse, là. C'était pareil. Ah ouais. Mettez-moi ces oripeaux, parce que Karim, attention, c'était un lettré aussi, hein. Mettez-moi ces oripeaux sous le bureau, il a dit je ne peux plus les voir. Ils ont jeté leur robe sous le bureau et tout ça. Et là, le mec, il se met à parler normalement. Ah oui, je lui ai dit, mais vous avez encore le même blazer. Qu'en 85, il avait le même. Moi, j'ai dit, bon, l'avoir plusieurs. Il ne m'a pas répondu. Alors, les poulets, les mecs du RAID ou du GIGN ou les mecs des prisons maintenant, ce qu'ils appellent les IRIS, là, bon. Quand ils arrivent, ils mettent des cagoules pour pas que tu les reconnaisses. Et moi, j'ai conseillé à président de tribunal de mettre une cagoule. J'ai dit, oui, je suis accompagné par des cagoulés. J'ai dit, vous avez vu? Et oui, je me demande comment ça se fait qu'ils ont des cagoules et tout ça. Elle me dit, bah, vous comprenez bien que c'est des gens qui tiennent à la sécurité. Il me dit, ils veulent pas être reconnus, bah, vous devriez en mettre une, vous. Parce que tout le monde peut vous reconnaître. Oh, mais je vous en prie, non, bah, j'ai dit, voilà. Cagoule, belle cagoule.
Jeff Clack.
Vous dites, page 32, que vous devez me dire une chose importante, très importante, très très importante. Vous pouvez me dire ce que c'est?
Bah, c'est pas sympa de nous envoyer sur ce texte-là, qui est un très beau texte.
Au fait, le texte sur lequel tu pointes, c'est très pertinent, dans le sens où, au fait, il représente un peu très bien ce qu'est Jeff Clack, dans le sens où c'est un texte littéraire. C'est un texte aussi qui a une dimension expérimentale et quand les lecteurs lui liront, il y a vraiment, voilà, à la ponctuation, etc., une dimension expérimentale. Et c'est aussi un texte qui est ancré sur une histoire sociale très particulière, qui est l'histoire de l'autonomie italienne des années 70, et qui est aussi une traduction, en fait. Une traduction qui est quelque chose qui est très important, on a une attention particulière à cette histoire de traduction d'autres textes ailleurs de nos frontières hexagonales.
Merci Ferdinand, Michael. Jeff Clack donc se trouve en librairie et ben longue vie à vous.
À l'odeur du temps, au lièvre de Mars, à l'histoire de l'œil.
C'est déjà pas mal. Merci. Note de fin, une reprise de Magic de Bruce Springsteen par le groupe Serious Plan, spécialement pour le disque Marabout de Jeff Clack. Like a custom on the trees.
It's coming.